La fièvre des sucres est un podcast acéricole avec des voix libres, stimulantes et qui interpelle l'industrie pour amener l'acériculture au-delà de ses limites actuelles. Dans ce premier épisode, Michaël Gagné, David Bolduc et Marco Gilbert, trois acériculteurs passionnés, discutent de leurs projets respectifs et reviennent sur la saison 2024. Ils discutent également de la conciliation des sucres avec leurs autres occupations, de rendement à l'entaille et à l'hectare, de l'impact de l'aménagement forestier sur les performances acéricoles, ainsi que de leur approche de l'entaillage. Cet épisode de La fièvre des sucres, disponible sur YouTube et Spotify, vous est présenté par la microbrasserie La Souche, ainsi que par la chaîne YouTube Le goût du territoire. Une mine d'infos et de passion pour les amoureux de foresterie, d'acériculture et plus encore. Bonne écoute de l'épisode 1 de la première saison du podcast La fièvre des sucres, intitulé Nouveaux projets et nouvelles pratiques acéricoles.
David, vas-tu faire ton projet de construction cette année, finalement, sur ta cabane à sucre?
Oui, cette année, j'ai pris congé tout l'été. Je m'embarque là-dedans, reconstruire de cabane, puis je veux aller voir la tienne parce que je veux connaître, connaître l'ensemble des erreurs.
C'est sûr que moi, j'ai un peu moins d'entente. Toi, t'as combien d'entente?
3030 cette année, après mon ménage de plusieurs années. Là.
3030, moi, c'est ça. Moi, j'ai 2300, c'est sûr, mais... Je suis passé par là en 2022, c'est tout un chantier. Ouais. Tout rebrancher ça quand tu as fini après, là, c'est le bout des fois qui est un peu plus long de tout reconnecter les tuyaux.
Quel genre d'équipement que tu as dans ton érablière, la future que tu vas avoir?
Je remets tout ce que j'avais. Regarde mon osmose puis ma bouilleuse. Plusieurs m'ont dit pourquoi tu ne rapetisses pas de bouilleuse tant qu'à rebasser puis tout, mais... Ma bouilleuse ne vaut pas grand-chose, fait que payer pour en acheter une plus petite, puis passer plus de temps dans la cabane, mais je vais garder ma surdimensionnée, puis mais je garde à peu près les mêmes équipements. En réalité, c'est du confort qu'on veut se donner. Là. J'avais tout fait le tour, tu sais. Il n'y a pas une scène à faire dans la cabane. Tu le sais, tout a bâti. C'est un investissement, mais c'est l'investissement, moi, je l'avoue dans le bois. La cabane, c'est une dépense. Ouais. Mais on se donne du confort, puis on va se donner de quoi de... d'intéressant pour...
Quelle grandeur de bouilleuse que tu as? C'est-tu qu'il est surdimensionné? Ou...
Les 5-16 à l'huile.
Pour 3000 entailles.
Pour 3000 entailles. Effectivement, 5-16 à l'huile avec...
quand même grosse. C'est ça.
5x16, c'est ça qu'on avait chez nous dans le temps quand j'en faisais avec mon père, au bois.
Puis il n'y avait pas d'osmose.
Puis il n'y avait pas d'osmose. 1200 érables qu'on avait dans le temps, là. Puis on chauffait avec la pitoune de 4 pieds, là, pratiquement, là-dedans, là. Des deux portes, puis... Ça prenait un chandail à manches longues parce qu'on prenait des coups de soleil sur les bras quand on ouvrait la porte de la bouilleuse.
Il n'y avait plus de poêle.
Ouais, c'est ça. Mais ça arrivait qu'on finissait à des 2h du matin ou des minuit, même avec 1200 érables et une grosse bouilleuse de même, là, 5-16, là, parce que ça coulait tellement, puis il y avait tout le temps de l'eau, ça rentrait, puis on pouvait pas osmoser pour séparer. Mm-hmm. Mais tu sais, aujourd'hui, l'osmose, c'est ça qui permet d'avoir des grosses exploitations comme même.
Ouais.
Hey, tu n'as combien, toi, là, au total?
Ouais, nous autres, on a 60 000 entailles qui nous appartient. Mon bouille, 94 000. On a même fini à 107 000 là, cette année. C'était juste un client là, au centre de bouillage. Et nous autres, c'est deux bouilleuses électriques. Une capacité là, de normalement 440 gallons d'eau à l'heure chaque qu'on évapore à 22. Fait qu'on fait un 7-8 barils à l'heure là, quand tout va bien.
Quand ça roule.
Oui, quand ça roule, 6-7 heures en ligne.
Quand Hydro est là, puis peut fournir le courant.
Hydro cette année.
Ça n'a pas été facile en Europe.
Hydro cette année, c'est 8 pannes chez nous. Ça a été majeur, plus que majeur même. Là. Ça a même réduit les productions de plusieurs producteurs.
Les reculs que ça a créé.
Moi, j'ai 3 pompes vacuum qui ont carrément été noyées parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller fermer assez vite. Trop de stations. T'sais, j'ai 17 stations de pompage. Fait qu'on s'est pas rendu assez vite, puis il y a 3 vacuums sautés. C'est les frais que ça engendre, là, quand il y a des pannes d'hydro, c'est terrible. Donc, ça peut pas arriver dans notre région, des pannes d'hydro dans le temps des sucres. Ou à tout le moins, le moins possible, faudrait pas. Pas à chaque neige mouillante, comme on a vu, pas à chaque vent. Il y a eu une négligence de la part de l'hydro dans l'entretien, puis là, on paye pour.
C'est ça. Parce qu'il y a même des fois où il y avait rien, il y avait même pas de vent... Un beau samedi après-midi à 3h, j'étais en train de séparer, tout arrête, puis il y avait un problème à Beauceville, là, qui a tout planté le réseau complet, là, et il n'y avait pas de raison de manquer de courant là.
Une bouilleuse électrique, ben, ça prend 3 heures à partir, comme la mienne. Fait que quand elle arrête, t'es 3 heures arrêtée. Fait que quand ça replante, 3 heures après, t'es 3 heures arrêté encore. Fait qu'on a fini dans le milieu de la nuit au lieu de finir.
Ouais, c'est ça. Sans compter Evacuum qui ont tout arrêté.
Ouais, aussi. C'est ça. Sans compter Evacuum, mais.
Parce que quand ça repartit à 9-10 heures le soir, là, faut que tu repartes faire le tour. Là.
T'as 17 places à aller faire un tour. Ouais, puis à réparer des bobos pendant la nuit. C'est...
Ouais.
Juste que plus c'est gros, plus t'as de problèmes
à gérer. Ouais, les problèmes sont plus gros, c'est ça.
C'est ça.
Moi, il y en a juste 2300 en table, ça fait que c'est pas trop. C'est moins stressant. J'ai une station, c'est la cabane. Puis j'en ai une petite au fond. Là. J'avais un petit problème cette année, mais sinon, c'est plus facile à gérer quand t'es moins gros. Mais il reste que quand t'as un travail à temps plein, comme toi, c'est ton entreprise. Là. Nous autres, travailler à temps plein des printemps comme cette année, quand il y a beaucoup d'eau à gérer, là, c'est fatigant.
Oui, oui. Ouais. Ça essaye.
Ça fatigue.
Ça fatigue les gars qui sont en plein, ça fatigue ceux qui travaillent.
Ça fatigue tout le monde.
Ça fatigue tout le monde.
Oui, c'est ça.
Mais c'est un beau problème. Là. Moi, j'ai terminé cette semaine. Là, puis cette année, contrairement à certains, j'ai pas eu une saison mieux que 2022. Là. Il y en a qui ont eu une super saison. Là, mais cette année, ce qui a été frappant, c'est qu'il a rentré énormément d'eau. Il a rentré, je pense que vous l'avez mentionné, il a rentré, moi chez nous, il a rentré 40,43 gallons. D'eau à l'entaule versus c'est 3 gallons, un peu plus que 3 gallons à l'entaule que 2022, puis j'ai fait une livre de moins par rapport à 2022. Ouais, c'est une quantité énorme d'eau qui a rentré qu'on a eu à gérer cette année.
Grosse coulée d'eau, hein, c'est ça.
Moins sucré, mais beaucoup d'eau.
Tu as fini à combien de livres à l'entaule ou à l'hectare, ou mettez en ce que tu veux, là,
ben, ton rendement. J'ai fini à 9,50 juste. Puis à l'hectare, je l'ai compté, il me semble que c'était 2155, là, je dis ça sur toute réserve, mais je l'avais compté aussi à l'hectare. C'est mon deuxième meilleur rendement en taille, puis mon quatrième meilleur rendement à l'hectare, parce que je suis parti quand j'ai acheté à 3950 en taille. Puis, beaucoup grâce à Mike, parce que c'est un gars qui est hyper axé sur la santé puis la croissance... des érablières pour justement le rendement. C'est quand tu as des gros tuyaux qui amènent ton eau d'érable aux feuilles, ben t'en captes bien plus quand tu en tailles. Fait que je regarde de 3950 à 3030 cette année. Puis, fait que oui, globalement, j'ai pas diminué, mais tu sais, c'est pas mon deuxième meilleur rendement, c'est mon quatrième. Mais tu sais, globalement, tu vas chercher plus de sirop sur ton terrain de jeu, même si tu enlèves des entailles. C'est un peu un non-sens pour certains, mais puis c'est beaucoup moins d'entretien de petit bleu. Fait que c'est quand tu es capable de maximiser ton terrain de jeu puis aller éliminer les érables malades, les érables qui produisent moins, ben toutes tes autres sont gagnantes. Fait que ton taux de croissance est plus élevé, tu as un meilleur un peuplement plus en santé. Mike est mieux placé
pour. Ouais, je me souviens d'avoir martelé chez vous puis que ton père avait fait pratiquement une crise de cœur en voyant ce qu'on avait marqué. Puis pourtant, le prélèvement n'était pas... il était pas très élevé. Non, on était allés assez lousse. Là. Je savais que ça choquerait, mais il y en avait qu'il fallait sortir pour générer de la croissance. C'est un super beau site, mais il faut quand même continuer à l'entretenir, ce site-là, pour qu'il, à travers le temps, continue à performer comme il performe là. Puis c'est le fun d'avoir des sites de même très performants, parce que ça nous donne idée à quoi on peut aller en travaillant nos érablières. C'est sûr, chez David, pour l'avoir visité, je sais qu'il y a un beau penchant, il est dans le fond d'une vallée, tout est là pour... c'est pas un microclimat, mais pratiquement pour donner une chance à couler. Mais ça se dit que dans cette région-là, des érablières semblables à ça, ils seront capables d'atteindre ces niveaux-là. Et puis, ce que j'aimerais savoir, puis je sais pas par quel test on pourrait le faire, c'est l'érable qui coule le plus chez vous.
Ouais.
À combien on pourrait se rendre? Il y a des tests qui ont été faits là, à Mont-Laurier, ils ont pogné 13 livres à l'entaille dans une placette là, où ils ont essayé de calculer les livres à l'entaille de chaque érable. Si à Mont-Laurier on réussit à faire 13, ben, j'imagine que chez David, il y a des érables qui donnent plus que ça encore. Fait que ça serait le fun un jour d'avoir la capacité de mesurer ça. On l'espère. Je sais pas comment on pourrait le faire, mais érable par érable, ouais, dans tes prochains investissements.
Ouais, c'est ça.
J'en ai une en particulier qu'on pourrait aller chercher.
On va s'en choisir.
On va s'en choisir. On va le savoir. C'était ça quand on était jeune, c'était un peu ça. Bon, dans ton rayon chaudière, fait que celle qui coulait sucrée ou celle qui coulait le plus, tu le savais facilement. Là, t'as spoté d'une année à l'autre, c'est ouais, que t'allais ramasser de l'eau et t'allais boire dedans. Là.
Souvent, il y avait un aménagement forestier qui était fait en conséquence. Moi, il y a une érablière que j'ai achetée, on l'appelle chez Wally, c'était l'ancien propriétaire. Son père, à lui, c'était Daniel, ça fait que ça fait pratiquement 50-60 ans que c'était aménagé. Lui, ça coulait pas à son goût, l'érable a tombé. C'était pas plus compliqué que ça. Mais cette érablière-là, aujourd'hui, C'est un joyau. Mm-hmm. Il y a pas, on a jardiné là-dedans à se demander quelle maladie qu'on enlevait. Il n'y avait pratiquement pas de maladie.
Ah, ouais.
Et c'était juste pour continuer à éclaircir et créer une régénération. T'sais. Au final, moi, je pense que l'aménagement ça doit être fait aux 10-15 ans. On n'a pas le choix de passer dans nos érablières. Mais lui, il a toujours travaillé dedans. Puis c'en est une des bonnes, qui n'est pas tellement loin de chez David. Elle donne pas le même rendement, mais on n'a pas le même versant. Moi, ça penche nord-ouest. C'est pas associé à des gros rendements, normalement, les nord-ouest. Mais pourtant, on réussit à sortir de quoi d'intéressant pareil. Cette année, on a fini. Ben, elle n'est pas finie, en fait. Là. On la pompe encore, celle-là. Mais on a 7 livres et demi à l'entaille sur ce site-là. Puis moi, ben, vu qu'au centre de bouillage, on traite plusieurs clients, ben, je traite chacun de mes morceaux comme étant un client différent. Je suis capable de suivre mon évolution.
Même les tiennes à toi, tu es capable de savoir exactement.
Les miennes, chaque site est traité comme un client. Fait que je sais le nombre de livres à l'entour qui rentrent journalièrement. On pèse l'eau, on prend le taux de Brix. Ça fait qu'on sait ce que ça va sortir dans le sirop. Puis on pèse le sirop à l'autre bout. Fait qu'on a un suivi journalier qui se met à jour dans le fichier Excel. Tu es rendu à combien par personne, puis par érablière. Mais moi, ça me le dit. Fait que là on est en train de voir les érablières chaudes plantées, puis les froides, là, ils sont...
Continue.
Là, ils sont partis. Là ils donnent, ben, ils donnent de l'eau. En fait, le prime est passé pour l'année, mais quand même, ils continuent beaucoup plus.
Puis, pour, mettons, chez Wally, là, malgré l'entretien puis le peu de maladies qu'il y avait, quand tu l'as ramassé, t'as enlevé quel pourcentage de bois, justement, pour encore la revigorer encore plus?
Ben, il y avait 10 000 entailles quand on l'a acheté. On a remonté la norme d'entaillage. On a passé 8 pouces. On met 9 pouces, on met pas 8. On met le 24 cm qui va être applicable sur forêt publique, mm-hmm. même si on est sur privé. On met plus de 3 entailles. Fait qu'en éliminant ça, puis en bûchant, on enlevait 2 000 entailles pratiquement. Sauf que les rendements sont quand même améliorés en enlevant cette quantité-là. On a enlevé 15%
en
prélèvement. Puis on a sorti grosso modo une vingtaine de ventes de bois franc. Puis c'était de l'érable assez saine, mais qui avait besoin d'être éclairci. Chez Wally, il y a deux sections d'érablière. Il y a une section où son père avait aménagé avec le temps, où c'est de la grosse érable, puis que ça avait jamais été... ça a été toujours jardiné à travers le temps. Puis il y a la section d'en bas qui a été coupée à blanc pour faire du charbon de bois, là. X années, peut-être 60-70 ans. Puis ça, ben, faut le traiter complètement différent. Cette section-là, c'est pratiquement de l'éclaircie commerciale qu'on fait dedans. Quand c'est trop serré, faut que ce soit éclairci. Mais ça nous permet d'être un peu plus sévère s'il y a de la maladie. Mm-hmm. D'aller en chercher, les jeunes érables réagissent pas mal mieux que les grosses, là, à une ouverture plus grande. Fait que, c'est ça qu'on a fait là. Mais règle générale, chez nous, 10 à 15%, suivi d'un chaulage si besoin. Là, on fait tout le temps nos tests de sol. Mais dans notre région, j'ai eu à date un test de sol qui n'a pas eu besoin de chaud. Le restant, c'est pratiquement tout le temps la grosse dose, le 3 tonnes à l'hectare qu'on traite partout. Fait que, c'est ça, les travaux de chaulage, mais nous autres, on les fait seuls parce qu'on en fait assez.
Ouais, ben juste la superficie que j'avais à traiter, ça vaut la peine d'investir pour l'équipement. Hein.
Exact.
Alors moi, chez nous, quand j'entaillais mon père, on avait 3100 à peu près qu'on entaillait. Je faisais une livre et 25 à l'entaille à peu près. Livre et demi dans les bonnes années. Puis mon père est mort en 2009. Fait que là, j'ai traîné ces rendements-là au début. Puis là, j'ai commencé à ramasser tranquillement un peu d'argent. Puis là, j'ai recommencé à réinvestir dans du bleu. Là, cette année, mon calcul provisoire est autour de 5 livres et demi. Là. Ça fait que pas mal, je suis rendu ailleurs.
Mmh. Ça me qu'on s'était parlé de ça. Puis tu m'avais dit qu'à 5 livres, tu serais bien content.
Ouais, je suis rendu à 5 et demi.
Là, le temps.
Là, j'en vais encore.
Bonne mentalité.
Mais tu vois, j'étais quand même à 3100. Puis là, je suis rendu à 2200 en tasse. J'en ai enlevé 800. Là.
Puis globalement, tu fais plus de sirop.
Ben oui.
Tes rendements à l'entasse sont meilleurs, mais tu fais quand même. Puis tu as moins d'entasse. Ton rendement, je suis sûr qu'il est meilleur. Puis, t'as moins d'entretien, ta forêt est plus en santé.
T'es entaillé, j'ai 800 trous de moins à faire, dans le temps, surveiller les fuites.
C'est en chute de moins.
Okay. C'est tout, moi aussi, je suis quasiment en 9 pouces et demi, presque 10 pouces pour mettre mon premier chalumeau. Des deux entailles, ça prend un érable d'exception, là, qui a de la branche en masse, puis qui a un gros tronc, puis il n'y en a presque pas, là, que j'en mets deux. Il y en a une couple qu'il faudrait en avoir, mais je n'en mets pas deux. Puis, le reste, c'est tout un entaille, ça fait que... Puis là, des érables que d'une année à l'autre, on va l'essayer ici de voir. Je l'essaye plus. Là. Il y a 3 tapes après la chute, c'est fini. J'ai eu 3 chances. Ouais. Je la coupe. Mais là, mon problème, c'est que je génère trop de volume de bois pour que je suis capable de brûler à la cabane ou à la maison chez nous avec mon foyer. Ça fait que ma mère, elle a arrêté de chauffer au bois. Ça fait que là, j'ai un problème de. Fait que là, je me suis organisé avec un gars. Là, il dit viens t'en chercher. Là. On a échangé des services. Là, puis il s'en prend. Mais. C'est ça, c'est parce que même une érablière comme ça génère quand même un bon volume de bois. Si tu commences à l'entretenir puis acier que, au final, ton évaporateur, moi j'ai 3 par 12 là, à cette heure, là, ben, tu sais, je chauffe pas assez pour...
Que les évaporateurs sont plus performants,
ben, même c'est si au bois, ils consomment beaucoup moins. Le séparateur fait que ça te donne une chance à la consommation de bois aussi, fait que, au final, je sais que j'aurais plus de travail d'aménagement à faire, mais je fais comme pas prendre le dessus par rapport à enlever les tiges qui sont déjà mortes. Pour réussir à aller faire de l'aménagement, puis d'en couper des vertes pour dégager d'autres qui seraient meilleures. Puis...
Ben, ça dépend aussi d'où qu'on part. T'sais. Tant que Mike est venu marteler chez nous, il fait le tour, puis là, on a tout marqué. Là, mais quand il a repassé la fois d'après, tous ceux qui avaient marqué n'étaient pas tous partis.
Non, non, non,
là,
parce qu'il
y a quand même.
Une réserve.
Tant que tu as la scie dans les mains, puis là, tu fais.
Ouais.
Ouh, OK. Puis là, ben, cette année, cet été, là, j'ai été drastique là, à l'automne. Là, j'ai embarqué, puis là. Je n'ai fait du ménage. Un secteur, c'était mon premier secteur que j'avais aménagé, puis j'avais été avec beaucoup de réserve, mettons. Là, j'ai été vraiment avec aucune réserve, là, fait que y en a moi aussi. J'en ai beaucoup de bois là, qui traîne, mais regarde.
Moi, à un moment donné, c'est ça, j'avais engagé quelqu'un en arrière de ma cabane à sucre. Quand j'ai pris l'érablière avec mon père, on l'a acheté en 86, nous autres, l'érablière. Parce qu'avant ça, il y avait. Mon grand-père, il avait une terre de 6, 5, 6 000 à Chaudière, mais on n'entoyait pas tout ça. Mon père s'en prenait une petite portion de 800 à peu près, puis il entoyait ça. On faisait ça avec des postes dans le temps. Là. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Il appelait ça des postes. Là. C'était comme des tubes trois quarts brochés avec des pinces un peu partout. Là. Puis là, il mettait un 5 gallons attaché après un érable, là. Puis là, ça collectait. Puis là, trois quarts descendaient jusqu'à la cabane. Nous autres, ils appelaient ça des postes. Là. Puis là, tu ramassais ça au 5 gallons, tu mettais ça dans la Chaudière, puis ça descendait jusqu'à la cabane. Là, s'il y en a deux qui vidaient en même temps, ces embranchements, ça ressemblait dans l'autre. Ça se criait dans le bois. En tout cas, on ramassait 800. Puis là, en 86, il a décidé d'acheter une terre pour lui. Mon grand-père n'était pas prêt à vendre. Il y avait des 5 frères. Puis il n'était pas prêt à vendre à ce moment-là. Ça fait qu'il a décidé d'acheter celle-là. Mais quand on est arrivé en arrière de la cabane, en tout cas, vous demandez si vous venez, vous allez voir ça. Là, c'était plein d'épinettes de champ. Parce qu'avant ça, c'était des terres de paquage. Il faisait packager, ça fait que c'était des pinettes de champ à un moment donné qui avaient poussé quand il avait arrêté le package. Fait que là, on commençait à couper ça, faire ça en pitoune, des vannes, puis des vannes. Mais tu sais, au travers, c'était tous des petits cotons d'érable de même, avec 3-4 branches en haut, mais tu sais, quand on a eu enlevé les pinettes de champ, là, ça a commencé à dégager, puis là, ça a poussé. Mais là, moi, en 2017-2018, quand j'étais rendu en ce coin-là à mettre la tublure, là, c'est tout l'érable qui est comme ça aujourd'hui, là. Puis ils étaient tous cordés l'une sur l'autre, là. À peu près, je dirais, 300-400 pieds par 500 pieds, là, cette zone-là, de carré, là. J'ai enlevé 100 cordes. Mais c'est pas moi qui ai bûché là-dedans, là. J'ai appelé quelqu'un, mais je dis, moi, je suis pas capable. Il n'y en a pas une, il n'y a pas de chancre. Là, j'ai dit, tu coupes les plaines. Et voilà, j'ai dit, on va enlever les plaines, tant qu'à avoir le choix des cadeaux. J'ai dit, t'enlèves les peines, puis après ça, les fourches. Lui, c'est un gros producteur, là, un gars de Robertson, là, qui est déjà un gros producteur, ceux qui connaissaient ça. Il avait travaillé au groupement forestier aussi, ça fait qu'il savait où ça en allait. Là. Il m'a fait le ménage, mais quand j'ai sorti ça tout en quatre pieds, moi, des rangées d'érable de quatre pieds, là, toute ben saine. Là.
Ouais,
le bois est souche aujourd'hui, là, ça a tout ronné. En tout cas, tu vois ça, les affaires. Hein. Tiens, ouais. Mais tu sais, aujourd'hui, là, tu vois les têtes. Là, si toi, tu reviens, il faudrait que tu... passe encore, puis probablement qu'il y en aura encore autant enlevé, là, parce que là, tu sais, j'en ai plein, là, qui sont en attente, puis, mais là, c'est lequel j'enlève, là, c'est un peu comme tu disais tantôt, là les plaines sont plus là, il y a un peu d'espèces compagnes, les fourches, je les ai quasiment enlevées, tu sais, une fourche, quand t'es trop basse, t'es pas capable d'entoyer, tu fais de la zone d'entoyage.
C'est là que l'œil d'un technicien.
Ça
prend un inventaire. Là. On a besoin de l'œil de l'ingénieur en arrière pour le prescrire, mais après ça, sur le terrain, là, quand le technicien passe, il y a des maladies souvent que le monde ne voit pas. Et malheureusement, là, les producteurs ne sont pas tout à fait assez ferreux sur la maladie dans la forêt. Puis tu vas rentrer un technicien forestier là-dedans un peu habitué, puis il va t'en sortir du bois, puis il va te l'assainir, le peuplement.
C'est
la preuve que ça génère énormément de bois, une érablière. C'est en croissance constante. Puis toi, tu t'alimentes tes voisins en bas de chauffage, puis comme ça. Moi, chez nous, on alimente les moulins. Tu sais, c'est le moulin ici à Saint-Jacques-de-Lys qui reçoit mon siège. C'est Domtar à Windsor qui va ramasser mon bois de pâte. Est-ce qu'on n'en vend pas, bois de chauffage, j'ai pas le temps. On en génère trop. Quand on aménage, tu sais, c'est pas trop. C'est pas énorme. C'est pas de la récolte forestière comme telle. Moi, c'est de l'aménagement, mais ça reste une vingtaine.
Ça fait des volumes.
20-25 vannes par année qu'on a besoin de vendre. Fait que c'est l'usine de pâte qui la ramasse. Puis l'usine de siège ramasse le beau. On trie, puis c'est là que ça vaut. Puis à chaque fois qu'on repasse, on est étonné du tas de bois qu'on finit, qu'on fait. Moi, la rivière que j'ai achetée, celle de Martin, qui est le frère Wally, finalement, j'ai acheté la famille. celle-là, j'ai bûché dedans. J'ai travaillé pour Martin pendant une dizaine d'années avant de commencer à acheter des sections de rivière à lui. On est repassé dans des morceaux que j'ai faits quand j'avais 20 ans. C'est 20 ans plus tard. Et, je me reconnais pas, la forêt.
Mais ça a tellement poussé.
Ça avait tellement poussé. Puis de la qualité d'érable qu'on a aujourd'hui, juste 20 ans plus tard, versus ce qu'on avait, ça n'a rien à voir. Mais la tubulure est mieux faite. On a des meilleures manières de travailler. On désinfecte mieux. On pompe sans arrêt, tout ça. Mais le rendement, initialement, il part de la qualité des entours qui augmente. Puis notre croissance qui est bonne. Puis moi, je m'amuse parce que je fais de l'inventaire forestier à me faire des suivis de croissance chez nous. Puis c'est pas compliqué, les secteurs qu'on traite puis qu'on chôle, en 10 ans, la croissance double.
À double?
C'est impressionnant. C'est comme chez vous, peut-être pas, parce que tu pars avec une arabière, un sol déjà riche. Moi, celle-là, c'est un peu plus la misère, c'est dans la montagne. Il y a moins d'éléments nutritifs dans le sol, fait qu'on partait avec un sol plus pauvre, mais en y redonnant du calcium, parce qu'il en avait besoin, en donnant de la place aux arabes, ben on a doublé. On a doublé la croissance de ces arabes-là. Ça nous permet de revenir sur les mêmes trous pas mal plus vite.
Ouais.
Tu sais, notre patron d'entourage, il tient compte de notre nouvelle capacité à refermer le
tout. Puis on entasse sur beaucoup plus haut. Ben, tu sais, Mike, t'as été un des premiers à commencer à entoyer l'escabeau. Tu vas chercher. Non, mais tu sais, c'est une réalité. Là. Fait que c'est à cause de toi que j'ai connu ça, que j'ai essayé ça, puis que je fais ça aussi. Là. Mais ben, on prend des vieilles érablières, qu'il y a une zone d'entoyage qui est hypothéquée, épouvantable, puis là, ben, on va se chercher. Ce que le monde arrive d'une rivière vierge, puis ils font, hey, moi, je fais des autres, mais sauf qu'on le fait à l'escabeau. Ouais.
Mais tu sais, il y en a eu qui l'ont fait avant moi. La première fois que quelqu'un m'a parlé de ça, je suis parti à la rive, jamais je vais monter dans une échelle.
J'ai eu le même réflexe aussi.
Jusqu'à temps que je suis quand même curieux des nouvelles techniques, puis j'ai accoté une échelle. Ouais. C'est vrai que le bois est beau.
Le bois est beau.
Puis en ayant des travailleurs étrangers à l'érablière, ça a été la méthode la plus simple pour leur apprendre à trouver du beau bois, c'est de leur en donner du beau bois. Tu les fais monter. OK, la zone d'entoyage, là, elle a été massacrée pendant 30 ans, 40 ans. Mais au-dessus de ça, il n'y a rien. Fait que le gars, le premier trou qu'il a fait de sa vie, il était blanc. Ça, c'était plus facile pour moi pour maintenir un rendement. Puis au final, moi, c'est ce qu'on parlait avant de s'en venir ici. Moi, j'ai de la misère à enlever l'échelle de mes travailleurs parce qu'il y a mieux entoyer à l'échelle dans du bois blanc que d'avoir à chercher les trous. Chez nous, on entoye à l'échelle en début de saison. On commence à entoyer le 15 décembre à peu près. Donc, au 15 décembre, il n'y a pas de neige. Fait que ça va bien monter dans l'échelle, t'as pas de raquette. Mais vient un temps où on a besoin de raquette, là c'est fini l'échelle. Là, on entoye dans la zone qui a été hypothéquée pendant des années. Puis comme cette année, il n'y avait pas de neige, on est arrivé à la fin. Et là, c'est le contraire. Au lieu de recommencer à monter, c'est on entoyait le plus bas possible. Fait que là, mes entoyes sont à 20 pouces de terre, là, les plus basses. Là. On a descendu 5-16 le plus bas possible, puis on a fait des loupes par en dessous, puis on est allé. C'est important maintenant, puis la loupe, il faut qu'elle se draine. Mais on a fait des loupes, puis c'est ça. On essaye de varier le plus possible notre hauteur d'entoyage pour éviter la fameuse zone là, qui nous permet moins de rendement, parce qu'au final, il y a de la compartimentation partout là-dedans. Fait que l'eau, elle ne peut pas circuler là-dedans. Mm. Ben, elle peut pas. Elle circule, en fait, mais elle circule pas mal moins. C'est pour ça que je t'avais suggéré ça. Puis au final, quand on essaye de grimper, c'est pas si pire que ça avec une bonne...
J'avais eu le même réflexe que toi. Là. Puis la première année que j'ai fait ça, j'ai fait, ben, c'est pas plus long. Parce que je grimpe, puis je perce. Là, je redescends, puis je change de place. Avant, c'était, bon, OK, là, tu fais le tour, puis j'avais pas commencé de patron d'entoyage. Je me disais, je peux pas commencer un patron d'entoyage. C'est percé partout, fait que je pourrais pas le suivre. Mais là, j'en ai commencé un, puis ma zone qui est hypothéquée, qui pourrait être deux ou trois zones normalement, ben moi, ça devient rien qu'une. Fait que je me dis, là-dedans, je vais finir par en trouver une. Puis là, ben, fait que je me suis commencé un patron aussi. Là, fait que, toi, tu utilises ça, les
patrons? Moi, je fais un patron d'entoyage, je fais une marque de peinture, moi. Je me donne une chance au printemps, je me dis, je fais comme si j'entoyais deux fois. Mettons, j'arrive, je nettoie, mettons, s'il y a de la neige, n'importe quoi, mais après ça, mon premier trou, je le fais avec ma canne de peinture. Fait que là, des fois, tu te rends compte, quand t'arrives, tu sais, t'es que le moine, t'es pressé de faire le trou, passer à l'autre. Là. Fait que, moi, j'arrive avec la canne de peinture avant, là, je m'installe, puis là, des fois, entre de serrer ma canne de peinture, prendre le moine, ah, Christ, il y en avait un là. Il y en avait un là que j'ai pas vu, tu sais, l'écorce, était bon. Fait que là, je gratte mon écorce un peu pour enlever la peinture, là, on me reprend. Ça fait que... Mais chanceux, moi, j'ai à peu près une moitié sur une ancienne terre de mine. la piste de skidoo, dans le fond, qui passe entre le 8 et le 9, elle sépare mon érablière en deux. Fait que l'autre moitié, c'est une terre de mine qui était à peu près 25 ans, 30 ans, pas entaillée. À partir de milieu des années 80, fin 80, elle a été arrêtée d'entailler. Puis après ça, ça a été quand mon père l'a racheté en 2003 qu'il l'a racheté.
C'est pas, il n'a pas été attaqué beaucoup.
Fait que la zone d'entaillage, il y en a, là. Ça a été entaillé un peu petit puis un peu de croche parce que le monde se disait, c'est pas grave, c'est une terre de mine, là, mais... Dans notre coin, nous autres, c'est ce que le monde dit. C'est pas grave, c'est la mine. Là. Fait que, mais tu sais, quand tu fais attention, tu es capable d'aller chercher une zone sans trop aller haut. Là. Puis là, ben, j'ai développé mon patron aussi. Je m'en vais tranquillement. Puis là, je m'enligne. Si je vois que je suis capable d'aller chercher un trou plus haut. Puis comme tu disais, cette année, j'ai profité du fait qu'il y avait quasiment pas de neige. Là, je suis allé très bas. Fait que, au minimum que je pouvais aller pour être sûr que mon 5-16 ait une pente pour aller vers le main. Puis m'assurer que j'avais une loupe dans ma chute. Mais là, je suis allé bas. Fait que mes 5-16 sont beaucoup plus bas. Fait que là, j'ai exploité vraiment. Puis là, je suis quasiment capable à des places d'aller chercher quasiment 4 niveaux de haut là, avant de commencer à bouger. Puis en arrière de la cabane, ben on a toujours été assez prudent dans où l'érable est plus petite. Là. Fait que c'est surtout la zone où qui a vécu l'époque des années 80 où moi, c'était ma job quand j'étais jeune. J'entaillais, c'était moi qui se mettais le doigt dans le trou pour mettre la pelure. Puis cette époque-là, les érables, on mangeait ça un peu plus dur. La zone est plus hypothéquée. Là,
ben, c'était du 7-16.
C'était du gros chalumeau.
C'était du gros chalumeau. C'était des zones
la de pelure plus le 7-16.
Beaucoup,
c'est ça. Puis des fois, la norme, ben, tu sais, au début, quand t'entaillais à la chaudière, ben, tu disais faut que l'érable soit à peu près grosse comme la chaudière. Là, ça devrait
c'était être sûr, la norme. C'était pas plus...
Mais là, quand tu commençais, ça a du bleu. Là, et des fois, il y a des érables qui avaient des chutes, puis ils penchaient quasiment qu'il y a le chalumeau. Là, fait que c'est ça a été entaillé petit à un moment donné, même chez nous, mon père. Là, il y en a plein qui ont commencé à entailler, que là, j'étais obligé d'échauffer, ils ont séché. Il a commencé trop petit à y percer.
Quand tu commences trop petit, t'as une perte de croissance.
Ouais.
Il y avait une étude qui avait sorti, la direction de la recherche forestière, c'était 40% de réduction de croissance, c'est trop petit. Fait qu'à un moment donné, quand tu prends conscience de ça, à quoi bon entailler 8 pouces? T'sais, tu montes à 9 pouces, c'est pas si long si tu la laisses pousser et qu'elle va arriver à 9 pouces, mais si tu te mets à l'entailler, tu vas ramasser comme...
C'est flagrant. Même 8 pouces, c'est trop petit. Parce que moi aussi, on a tout changé ça, puis on a jasé régulièrement, Mike et moi, puis tu sais, changer les patrons dans les patterns d'entaillage avec les grosseurs. Des fois, tu en avais deux pas trop loin, une qui était à 7 pouces et demi, l'autre à 8 pouces. La 8 pouces est entaillée. Ça passe 10-15 ans après, l'autre est rendue belle en mouillée. Celle-là, t'es encore bien pareil.
Elle n'a pas bougé.
L'écorce est rendue qui est toute crevassée, puis l'autre est encore bien lisse. C'est compliqué. Là, on le voit vite. Une érable qui pousse quand elle est jeune, si elle est lisse, ça vaut, si elle est crevassée, c'est parce qu'elle après son temps.
Ouais.
En plus, quand on a commencé, ben, je sais pas toi, si j'imagine que c'était le même, moi c'était drill à gaz.
La Tanaka,
l'exhaust dans le trou
pour
vider la rip. Puis la mèche pas trop affilée, là, fait qu'on a passé des rendements de 2,5 livres, nous autres, à du bon, du mieux, là, du 5-6 livres à 6 TD. À part une année comme printemps qui a fait mal. Là, l'année 2023 a été catastrophique dans notre coin, mais si on prend là, notre moyenne, là, c'est quand même, on s'est quand même amélioré avec le temps. Mais nous autres, on utilise les précisions de tapeurs de CDL. Je pense que toi, tu
l'as. Ouais, moi aussi, j'y croyais pas ça aussi, Mike.
À l'échelle, moi, j'ai pas trouvé.
Ouais.
J'ai pas trouvé de manière de faire des beaux trous sans avoir ça.
Ouais, c'est sûr qu'à l'échelle,
ouais.
Tu te rapproches de l'arbre
quand tu accroché, c'est souvent ton arbre. Puis moi, j'avais encore dit cette année, je suis pas sûr que j'aime ça, mais je le prends encore. Puis là, cette année, en entourant, je me suis dit, ben là, il faudrait que tu te décides. Puis là, souvent, j'étais à une main, j'ai fait, OK, non, c'est réglé, ça me prend.
Tu te tiennes après le tronc, parce qu'en montant dans l'échelle, tu es obligé de te tenir en arrière un peu.
Il y a un de mes employés qui m'avait fait rire. C'est un gars que ça fait longtemps qu'il entoure. On a pratiquement commencé en même temps à l'érablière. Puis Kevin, il me dit, je peux pas entourer le matin. C'est comment ça, tu peux pas entourer le matin? Ah, il dit, j'ai cassé un petit wire, là, après mon précision de tapeur, il faudrait aller en chercher un. Il me dit, Kevin, il y a une dizaine de drills, là, normal. Il dit, moi, si vous t'as voulu, je prenne ça, je voulais pas. Je me suis habitué, je prendrais plus de drills. Ça a été aussi simple que ça. Fait que cette journée-là, il a fallu chercher le petit wire, se réparer. Ça a pris 5 minutes, mais il dit,
ça,
il prenait ça. Ça fait que, il dit, moi, si tu m'as forcé à utiliser le précision de tapeur, à cette heure, je suis habitué. je m'en passerai plus.
Ouais.
Tu sais, c'est à ce point-là. Mais cet outil-là nous permet un entourage beaucoup plus stable.
Ouais.
Tu sais, c'est ça. Puis au final, chaque fois que le trou est bien fait, ben, c'est des fuites de moins. Les chalumeaux sont meilleurs qu'ils étaient aussi.
Les chalumeaux sont plus petits. Là. Toi, tu es encore au 5-16 parce que il y a
la croissance pour.
Il y a la croissance pour, exactement. Là. Fait que moi, j'ai mis un corps. J'ai probablement la croissance, mais je veux. Tu sais, mon père a travaillé fort, il y avait des gros rendements, mais l'érablière est hypothéquée quand même, puis tu sais, il surentoyait pas, il a été d'un premier à. Il dépassait le 8 pouces, puis tout ça, mais je veux quand même ramener ça à un niveau de blessure, tu sais, ramener l'arbre le plus en santé possible, fait que. Je t'ouvre un corps, puis j'adore ça. Là,
tu fais trop d'argent.